Une autre vie s'invente ici.
Village et patrimoine du parc naturel régional des Grands Causses.
Dans l'émission d'aujourd'hui, nous nous intéressons aux opérations de réintroduction du gypaète barbu qui se déroule pour le parc naturel régional des Grands Causses sur la commune de Nantes. Cette action d'envergure internationale s'inscrit dans le cadre du plan national d'action en faveur du gypaète barbu pour la période 2010 à 2020. Le projet de réintroduction du gypaète barbu sur les Grands Causses a vu le jour en 2012 dans une action menée conjointement par le Parc national des Cévennes et par le Parc naturel régional des Grands Causses. L'arrivée de cette espèce sur les Grands Causses complète la réintroduction de la cohorte de vautours européens dans notre région. C'est Laure Jacob, chargée de mission au Parc naturel régional des Grands Causses, qui nous présente cette opération. Bonjour Laure Jacob.
Bonjour Nicolas.
Alors je rappelle pour nos auditeurs que vous êtes chargée de mission espace naturel, faune et flore au Parc naturel régional des Grands Causses. Et aujourd'hui nous allons parler ensemble de la réintroduction du gypaète barbu. Comment se passe cette opération? Comment a-t-elle débuté et pourquoi?
Alors cette opération a débuté il y a donc 3 ans cette année dans les Grands Causses, mais en fait elle est intégrée, on va dire, à un grand programme de mise en œuvre d'actions de réintroduction du gypaète barbu dans tout l'arc, on va dire, Pyrénées-Alpes. Donc il se trouve que les Grands Causses, comme vous le comprenez bien, sont situées entre les Pyrénées et les Alpes, secteurs géographiques dans lesquels on a encore quelques couples de gypaètes. Et du coup, l'idée de la France, c'est de dire, ben voilà, on a 2 territoires qui sont isolés jusqu'à présent, on va essayer de faire un relais, on peut dire, avec les Grands Causses, en réintroduisant le gypaète barbu, qui a des telles possibilités de vol que pour lui, c'est rien du tout de naviguer vraiment entre les Pyrénées et les Alpes.
Actuellement, quel est l'effectif des gypaètes barbus en France?
Alors en France, il y a seulement 50aine de couples, la plupart étant situés dans les Pyrénées. Il y en a d'autres dans les Alpes, en Haute-Savoie notamment. Et donc c'est vraiment extrêmement peu. C'est pourquoi la France a vraiment souhaité mettre en œuvre un plan national d'action, comme pour d'autres espèces rares et menacées. Et celui-ci, d'une durée de 10 ans. À l'inverse d'autres plans qui sont en général d'une durée de 3 à 5 ans, parce qu'il faut savoir que cet oiseau, donc ce vautour, a une durée de vie très longue, bien sûr, et il ne se reproduit qu'à partir de l'âge de 7-8 ans. Donc on comprend bien qu'une opération de réintroduction sur 3 à 5 ans signifie rien du tout pour une population. Donc voilà pourquoi le programme est d'une durée minimum d'une dizaine d'années, en espérant que les oiseaux vont venir se reproduire sur le territoire des Grands Causses.
Et alors concrètement, comment se passent ces opérations de réintroduction?
Alors c'est la Ligue pour la protection des oiseaux Grands Causses, qui est basée ici à Peyrelos, qui a en charge la mise en œuvre de cette réintroduction, avec des partenaires multiples, mais dont principalement le Parc national des Cévennes et le Parc régional des Grands Causses, puisque ces 2 territoires sont limitrophes et accueillent, on va dire, des sites de falaises et de gorges qui sont tout à fait propices à la réintroduction de ces oiseaux. Alors comment on procède? Ben, en fait, il y a un réseau de centres d'élevage agréés pour la reproduction de ces oiseaux, qui sont donc très rares, vous l'avez compris, avec des normes extrêmement strictes pour éviter la consanguinité, des contraintes extrêmement variées et diverses, qui font que tout ça est extrêmement bien contrôlé. Et donc, chaque année, les centres d'élevage, réunis dans des associations et structures très, très bien organisées, fournissent donc des oiseaux qui sont donc réintroduits, en particulier dans les Grands Causses, mais dans d'autres territoires aussi. Hein.
Et alors ces centres d'élevage, ils sont situés à quel endroit?
Il y en a dans plusieurs pays, hein. C'est vraiment dans des pays divers, je n'ai pas la liste en tête, mais l'idée c'est justement d'avoir des centres d'élevage très dispersés, qui permettent d'avoir une diversité génétique la plus grande possible, d'une part, mais également un critère qui est intéressant aussi, c'est la maturité des poussins. Parce que la date de naissance varie Et donc, du coup, la date où il faut les remettre dans la nature varie également. Nous, dans les Grands Causses, on est au mois de mai. On va donc très prochainement lâcher deux oiseaux. Mais vous comprenez qu'ici, évidemment, on est dans un secteur où on n'est pas soumis à des froids intenses et à la neige, etc. Mais c'est des oiseaux qui seraient trop jeunes pour être réintroduits dans des secteurs alpins, par exemple. Donc voilà, tous ces critères font que finalement ce réseau de centres très bien organisé font au mieux pour introduire les oiseaux au mieux. Et il faut souvent effectivement s'organiser dans l'urgence pour les autorisations, pour les transports, etc. puisque tout ceci bien sûr est extrêmement réglementé.
Est-ce que les opérations de réintroduction qui se sont faites jusqu'à présent ont été faites dans les mêmes conditions, c'est-à-dire avec le même type de population, le même âge des poussins ou est-ce que c'est différent suivant les sites?
Non, ça se fait dans les mêmes conditions, à ma connaissance. Hein. Je ne garantirai pas les choses, mais ça se fait à peu près dans les mêmes conditions. Et donc, toujours, comme je le disais, on fait en fait avec les oiseaux qu'on nous procure. Donc, l'idée de ce que je sais, c'est qu'en général, on recommande de relâcher au minimum deux oiseaux. Ça peut être deux mâles, deux femelles, un mâle et une femelle, au minimum deux oiseaux. Mais voilà, il y a des années où effectivement les centres d'élevage ne peuvent pas fournir autant d'oiseaux que les projets de réintroduction le nécessiteraient. Donc tout ça doit s'organiser et on fait avec les aléas qu'on a avec les oiseaux.
Donc d'un point de vue pratique, vous réceptionnez les oiseaux en provenance des centres d'élevage. Et après, qu'est-ce qui se passe très concrètement ?
Très concrètement, donc c'est les agents de la Ligue pour la protection des oiseaux Grands Causses, comme je disais, qui sont habilités pour la mise en œuvre de ce programme, qui se chargent de réceptionner les oiseaux. Donc après, l'idée, c'est de les, après le stress du voyage, qui peut être très long, etc., de les mettre le plus tôt possible dans des conditions de tranquillité. Donc ils sont disposés dans une cavité qui simule, on va dire, un lieu de naissance idéal pour le gypaète, pour qu'il ait l'impression, sans faire d'anthropomorphisme, mais qu'il ait l'impression d'être né à cet endroit-là. Donc en général, c'est des cavités dans des falaises bien exposées, où on dispose de la laine pour qu'il soit au chaud en général, et où ils sont nourris tous les jours, donc par des agents, mais qui sont discrètement disposés pour ne pas être vus par les oiseaux. Et donc il est, voilà, chaque jour, on vérifie qu'il y ait de l'eau et des eaux pour qu'ils soient bien nourris et tranquilles. Donc on les pose dans des cavités tranquillement, au calme, et ces oiseaux sont donc surveillés en permanence par des bénévoles, des stagiaires qui les suivent à la longue vue, donc à un endroit un peu éloigné, et qui notent vraiment minute par minute leurs faits et gestes de tous ces oiseaux-là jusqu'au moment où ils vont s'envoler. Alors ce moment-là, donc, il intervient quand les oiseaux qui sont, donc, comme je disais, bien surveillés montre des signes, on va dire, d'impatience, bat énormément des ailes. Enfin, bon, on imagine un petit peu ça naturellement, un oiseau qui va s'envoler. Donc à ce moment-là, la cavité qui est grillagée est ouverte. On enlève le grillage de protection de la cavité et les oiseaux, quand ils jugent le moment de s'envoler là, eh ben, ils s'envolent de leurs propres ailes, proprement dit, et ils restent un moment autour de la cavité, mais de toute façon, ils continuent d'être nourris et approvisionnés en os et en eau.
Comment procède-t-on pour faire en sorte que le poussin s'acclimate à son nouvel environnement ?
Tout est fait très en amont, donc pour que les lieux qui sont choisis pour poser, donc les cavités dont je parlais tout à l'heure, sont choisis donc par des scientifiques qui connaissent bien l'espèce et donc qui viennent sur place, qui sont venus sur place il y a quelques années pour, on va dire, choisir les lieux les plus adaptés au lâcher du gypaète. Alors on dit lâcher, mais effectivement, ce qu'on choisit, ce sont des lieux qui sont des nids potentiels. On joue sur le fait que ces vautours, en particulier le gypaète barbu, semblent avoir ce qu'on appelle un caractère philopatrique très important. C'est-à-dire, il aime l'endroit où il est né. Donc on joue là-dessus en se disant, on met l'oiseau, les bébés, poussins, gypaètes, dans un endroit qui semble leur convenir. Voilà, on se dit, ben, quand ils seront adultes, dans 7-8 ans, on espère qu'après avoir erré dans l'Europe entière, voire plus, ils reviendront ici dans les Grands Causses pour nicher avec un compagnon ou une compagne, pour y fonder leur famille. On joue vraiment sur ce caractère, puisque sinon on pourrait se dire, bah, pourquoi on ne les réintroduit pas adultes ? En fait, c'est beaucoup plus long, hein, puisqu'il faut attendre au moins 8 ans pour avoir un adulte. Mais vraiment, ce sur quoi on joue, c'est ça. C'est le fait que l'oiseau va s'adapter à son lieu, qui va prendre pour son lieu de naissance et puis y revenir, on espère, ou y rester jusqu'à l'âge de se reproduire.
Il me semble avoir vu sur des illustrations provenant de documents qu'il y avait également une population en Corse, une population d'Gypaète barbu. Est-ce que ça signifie que cette population corse est isolée du reste des Gypaètes nichant en France ?
Oui, la population corse est isolée et d'ailleurs se porte pas très bien. C'est un peu le problème de cette insularité, on va dire. Donc c'est pour ça que quand on peut développer d'autres populations et les relier entre elles, c'est toujours très très important. Donc profitons de ce caractère pour les grandes causes d'avoir des populations à la fois dans les Pyrénées et dans les Alpes pour essayer de relier les deux populations. Et dans les Alpes, d'ailleurs, le parc naturel régional du Vercors lui a entamé ce travail de réintroduction un petit peu avant nous. Donc on espère vraiment que voilà, le fait d'avoir cette petite étape très proche de nous, finalement, dans le Vercors Sud, va vraiment faciliter ce lien entre les deux massifs alpins. Et d'ailleurs, le vautour mâle réintroduit il y a 2 ans était dans le Vercors il y a quelque temps, a été vu il n'y a pas longtemps du tout dans le Vercors.
Le gypaète, c'est une des espèces de vautours. Actuellement, c'est un nouveau venu sur le territoire des Grands Causses. Il va donc coexister avec d'autres espèces. Est-ce qu'on peut déjà rappeler quelles sont les autres espèces présentes sur le territoire des Grands Causses et peut-être faire un portrait, tirer le portrait du gypaète barbu, que les auditeurs ont sans doute entendu parler de ce vautour, mais en avoir une présentation peut-être un petit peu plus complète.
Les 4 vautours donc qu'on a dans les Grands Causses, en comptant le gypaète qui est encore anecdotique. Donc on a principalement le vautour fauve qui est le plus abondant, le plus courant. Vraiment, quand on lève les yeux au ciel, on a beaucoup de chance d'en voir pour tout un chacun. Donc il y a le plumage brun, chocolat, le cou plutôt clair et dénudé, le plus classique des vautours fauves et qui niche en falaise en colonie. Ça, c'est le plus abondant. Il y a aussi le vautour moine qui, lui, est à peu près de la même envergure, la même taille, plus sombre, beaucoup plus sombre, un bec plus grand et un cou beaucoup plus emplumé. Donc il n'a pas tout à fait la même allure et assez facilement reconnaissable avec un petit peu d'habitude. En tout cas, quand on vous les montre, vous les reconnaîtrez facilement. Beaucoup moins abondant, donc il y a une vingtaine de couples dans les Grands Causses. Donc il fait partie vraiment des vautours extrêmement rares. La troisième espèce qui est migratrice, c'est un petit vautour qu'on peut effectivement reconnaître très facilement également, qui est principalement blanc avec le bout des ailes noires et le bec jaune, très très visible. Donc c'est le petit percnoptère d'Égypte qui lui est migrateur. Donc de toute façon, si vous voulez le voir, c'est à peu près à partir du mois d'avril et puis jusqu'à fin d'été. Mais on va dire qu'il est extrêmement rare. Il y a 2-3 couples dans les Grands Causses et 1 ou 2 couples dans le parc régional. Donc celui-là est extrêmement rare et puis difficile à voir, très farouche et bon, sensible au dérangement. Il niche en falaise également, donc voilà, vous pouvez comprendre les problèmes qu'il peut éventuellement rencontrer sur ces sites de nidification. Donc ça, c'est pour les 3 espèces, on va dire, les plus historiquement présentes sur le parc. Et le gypaète barbu, lui, donc, qui est actuellement jusqu'à l'âge de 5 ans à peu près, avec un plumage sombre. Donc effectivement, il est assez difficile de le reconnaître par sa couleur. Par contre, son allure est assez différente. Il est plus élégant, même si son envergure est à peu près celle du vautour fauve. Il a vraiment des ailes plus fines, une envergure plus élégante, je le disais encore, une queue plus longue et on appelle de forme cunéiforme, c'est-à-dire qu'elle est pointue à la base un petit peu, en forme de coin, comme le grand corbeau pour ceux qui connaissent, et donc facilement reconnaissable par sa silhouette quand même. Donc actuellement, effectivement, là, pendant les premières années, là, ce plumage sombre qui le rend difficilement reconnaissable au premier coup d'œil. Par contre, quand il aura son plumage définitif, c'est ce magnifique oiseau avec un plumage ventral, un poitrail, on va dire presque doré, quoi, qui en fait est blanc d'origine, les plumes sont blanches, mais il trouve toujours des endroits, des espèces de mares ou des espèces, on ne sait pas trop bien où, ici dans les Grands Causses, il va trouver ça, qui sont des coins où il va trouver de la rouille, des coins avec du fer, et dans lesquels il va pouvoir se colorer le poitrail. Mais naturellement, dans les centres d'élevage, par exemple, si vous regardez, vous trouverez des images de centres d'élevage de gypaètes, ou si vous en voyez, souvent ils vont être blancs, puisqu'ils n'auront pas cette possibilité de se plonger, on va dire, dans un bain de sable ou de boue ferrugineuse. Donc voilà, on en est encore très loin, mais en tout cas, quand il aura ce plumage, ce sera exceptionnel de beauté, quoi.
Ce gypaète barbu, il a un régime alimentaire particulier également ?
Oui, alors c'est intéressant parce que ces 4 vautours On appelle la cohorte des vautours, le groupe des vautours, la famille des vautours. Donc les quatre vautours européens ont chacun leur rôle bien particulier à table. Une fois qu'une carcasse de brebis, par exemple, c'est leur nourriture essentielle dans les grands causses, est déposée sur une placette ou un charnier officiel par un agriculteur ou des agents de la LPO, en fait chacun à son tour va déguster, on peut dire, les parties qui le concernent et qu'il apprécie. Et c'est toujours le vautour fauve qui va commencer. Les vautours fauves, en groupe, vont, ce qu'on appelle la curée, ils vont s'avancer, ils vont manger les muscles, tout ce qui concerne les chairs. Le vautour moine, lui, va rester un petit peu à l'écart, beaucoup moins abondant, hein, peut-être deux, trois vautours moines. Et quand les vautours fauves auront fini leur travail et auront mangé l'essentiel, les vautours moines vont manger les tendons, les parties dures, puisqu'ils ont un bec extrêmement fort et peuvent donc on va dire consommer des parties plus dures. Et le percnoptère, lui, est encore plus loin dans la chaîne, on va dire, puisque lui, avec son petit bec, il va picorer tout ce qui reste, il va aller à l'intérieur, enfin, je passe les détails, mais en tout cas, lui, il interviendra plus tard, plus comme picoreur. Et le gypaète, lui, ben, il a toute l'attitude de venir, même bien plus tard, puisque lui, on l'appelle le casseur d'os, et lui, il va consommer les os. C'est sa nourriture, hein, c'est extrêmement riche, les os, et il va se nourrir exclusivement d'os des brebis, des carcasses. Alors, quand elles sont de diamètre, on va dire, acceptable, il va les avaler jusqu'à même 30 cm de long, ça lui fait pas peur, hein, c'est énorme. Il va les digérer avec des sucs gastriques très efficaces. Et si l'os est trop gros, eh ben, il va le jeter à partir du ciel ou poser, il va le jeter sur une partie de cailloux, de roche, qui va le briser en morceaux et après il va se nourrir. Mais bon, sur les os de brebis, il y a assez à manger avec les os entiers pour ne pas risquer de s'en prendre sur la tête.
En guise de conclusion, quelles vont être les prochaines étapes de cette opération de réintroduction ?
L'idée de la réintroduction, c'est donc d'allier les deux territoires de parc, Parc national des Cévennes et le Parc naturel régional des Grands Causses, qui sont contigus, hein, dans ce programme de réintroduction qui va donc s'étaler sur une dizaine d'années au moins. Donc, alternativement, une année sur deux, on a donc convenu de lâcher les oiseaux une fois donc en Lozère, dans le Parc national des Cévennes, et une année en Aveyron, donc sur la commune de Nantes. Donc, on en est à la troisième année de lâcher. Donc, il y a 2 ans, on l'a fait donc en Lozère, l'année dernière en Aveyron. Cette année, on retourne en Lozère. Mais les deux structures, Parc national et Parc régional, sont on va dire, organisateurs conjoints de ce travail, vraiment l'égide technique, financière, scientifique, etc., de la Ligue pour la protection des oiseaux, qui suit les populations de vautours depuis l'origine, quoi, qui sont vraiment les on va dire, les acteurs principaux de cette action sur le territoire.
Merci beaucoup, Laure Jacob.
Merci à vous.
La réussite de cette opération de réintroduction nous permettra peut-être d'admirer dans le ciel des Grands Causses ce spécialiste hors pair du vol plané qu'est le gypaète barbu. En attendant, vous pouvez suivre grâce à une trace GPS les pérégrinations de Dourbi et Laïrou, nos deux gypaètes cosnards. Pour cela, rendez-vous sur le site rapace.lpo.fr à la page Gypaète Grand Causse. Vous pourrez même y parrainer un oiseau. Une autre vie s'invente ici, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de l'émission qui vous dit tout, ou presque, sur la vie du parc naturel régional des Grands Causses.
Une autre vie s'invente ici.
Village et patrimoine du parc naturel régional des Grands Causses.